RFI, 23h à Paris, 22h, temps universel.
24h en France.
Nous sommes ensemble pour 10 minutes consacrées à l'actualité française de ces dernières 24 heures. Bienvenue.
Paul Lancin-Spinelli.
Un doigt coupé pour obtenir une rançon de plusieurs millions d'euros en crypto-monnaie. C'est la méthode utilisée par les ravisseurs de David Balan. C'est le fondateur de la plateforme Ledger, spécialisée dans les cryptos. L'homme d'affaires ainsi que sa compagne avaient été enlevés mardi, puis libérés par les forces de l'ordre. 7 personnes ont été mises en examen dans cette affaire. On tentera de décrypter leur profil avec Baptiste Coulon. Les indépendantistes kanak réunis en congrès en Nouvelle-Calédonie pour essayer de s'entendre à l'approche de discussions à Paris sur l'avenir du territoire. À Nice, dans le sud-est, les paquebots n'auront bientôt plus le droit d'accoster. Ces géants des mers sont jugés trop polluants et responsables du surtourisme. Et puis une gifle pour Victor Wembanyama et ses coéquipiers avant de reprendre l'avion pour les États-Unis dans le deuxième match des NBA Paris Games. Les Spurs de San Antonio se sont inclinés face aux Indiana Pacers.
RFI.
Les crypto-monnaies et leur univers, nouveau terrain d'opération des malfrats. En France, 7 personnes ont été mises en examen aujourd'hui pour leur implication supposée dans l'enlèvement et la séquestration de David Balan, le fondateur de la plateforme de crypto Ledger, avait été enlevé avec sa compagne mardi. Le couple avait ensuite pu être libéré au cours de 2 opérations de gendarmerie. Les suspects ont été placés en détention provisoire, mais leur profil et leur motivation restent peu clairs. Baptiste Coulon.
6 hommes et une femme formaient le commando qui a enlevé et pris en otage David Balan et sa compagne. Des profils très jeunes, ils sont 5 à avoir 25 ou moins de 25 ans. Aucun détail n'a été communiqué par le parquet sur le rôle des uns et des autres, mais les premières pistes de l'enquête révélées par nos confrères du Parisien éclairent sur un point. Les suspects seraient des petites mains de la criminalité organisée, des jobbers comme on les appelle, recrutés sur internet, payés par des commanditaires pour exécuter un contrat. Des chefs de réseau possiblement à l'étranger vers lesquels tentent de remonter les enquêteurs pour connaître leur motivation, comprendre pourquoi ils s'en sont pris à cet entrepreneur. Le motif financier apparaît évident, une rançon a été demandée pour libérer David Balan. L'un de ses doigts a même été sectionné par ses ravisseurs afin de faire pression. 3 millions d'euros en crypto-monnaie ont finalement été transmis aux preneurs d'otages, mais les cyber-gendarmes avaient un coup d'avance. Ils ont pris soin de bloquer et geler les virements. Une grande partie de la rançon a pu être récupéré.
Baptiste Coulon. En Nouvelle-Calédonie, un mouvement indépendantiste fracturé, mais obligé de s'entendre. Le Front de Libération Kanak Socialiste, le FLNKS, a commencé à se réunir aujourd'hui en congrès. Le sommet se tient jusqu'à demain. Lors du précédent événement de ce genre, c'est la ligne dure qui était sortie vainqueur. Ses partisans essaieront de faire entendre leurs arguments, tout comme ceux qui sont plus favorables à un assouplissement. Le résultat du congrès sera en tout cas crucial en vue des discussions sur l'avenir de ce territoire qui doivent s'ouvrir prochainement à Paris. Charlotte Manvie, même le lieu sur lequel est organisé ce 44e congrès a toute son importance.
Au cœur de la tribu de Saint-Louis, le lieu dit Les Quatre Cocotiers n'est autre que le fief de Christian Théin, le leader de la CCAT à l'origine de la mobilisation contre une réforme électorale qui a dégénéré en émeute le 13 mai dernier. Christian Théin est en détention provisoire pour son rôle présumé dans l'organisation des violences, ce qui ne l'a pas empêché d'être porté à la tête du FLNKS il y a 6 mois, et ses soutiens veulent désormais le voir sur la liste de la délégation qui doit aller à Paris. Mouneko Aouchas, présidente du mouvement nationaliste souverainiste indépendantiste.
Il est présumé innocent, hein. Donc ça c'est important de le rappeler, il y a la présomption d'innocence. Aujourd'hui l'État français a sous ses verrous le président et le leader de la mouvance indépendantiste, et il est important qu'il soit là à la table des négociations.
Une demande portée par la frange radicale qui ne fait pas l'unanimité. Mais les jeunes sont chauffés à blanc par une série de mesures qui touchent d'abord les classes populaires où les Kanaks sont majoritaires. La tension est palpable, souligne Sylvain Pabouti de la Dynamique Unitaire Sud.
On a qualifié à un moment donné donc, de politique de punition collective, notamment des familles océaniennes et Kanaks. Ça met beaucoup en colère les jeunes et puis après on se demande pourquoi il y a des événements qui arrivent.
On saura dimanche soir si Christian Théin fait partie de la délégation censée discuter à Paris. Charlotte Manvie, Saint-Louis au Mont d'Or, RFI.
Des immeubles flottants qui ne vont plus obstruer la vue sur la Méditerranée. À Nice, dans le sud-est de la France, le maire Christian Estrosi a signé un arrêté pour interdire les escales des bateaux de croisière. Une mesure prise pour lutter contre le surtourisme, mais aussi la pollution. Ces navires sont en effet dans le collimateur des associations écologistes. La présidente du groupe d'opposition écologiste à la mairie de Nice et à la métropole Nice-Côte d'Azur, Juliette Chesnel-Leroux, se réjouit donc de la décision de la municipalité.
Pour nous, c'est une victoire des écologistes depuis le combat qu'on mène contre ces bateaux de croisière depuis des années. Hein, parce que c'est les émissions des résidus de combustibles fuel lourds sont terribles pour la santé, pour la qualité de l'air. Ça, c'est vraiment important. Il y a toujours entre 0,5 et 1% de soufre émis, ce qui est quand même terrifiant pour la santé des habitants en termes de qualité d'air. Et puis l'ancrage de ces bateaux a un impact sur toute la mer Méditerranée, qui est une mer fermée et donc très fragile. Mais c'est vraiment sur la rade de Villefranche que l'impact est le plus important. C'est vraiment un berceau d'espèces endémiques et d'espèces animales très précieux. On a des barracudas, on a des poissons incroyables et on a des herbiers de Posidonie qui méritent quand même toute leur attention.
Juliette Chesnel-Leroux. En France, toujours, c'est donc un rendez-vous presque immanquable pour les fans de découvertes musicales. La finale de la Star Academy se joue ce soir. Cette émission de télévision voit s'affronter des talents qui rêvent de faire décoller leur carrière. Le programme est aussi très commenté sur les réseaux sociaux avec cette année de nombreuses dérives. L'une des deux candidates finalistes, Ebony, originaire de Guadeloupe et de Martinique, a été victime d'attaques racistes. Deux associations, SOS Racisme et la Maison des Potes, ont donc décidé de porter plainte et de rendre publique cette information. Une option qui peut donc s'avérer fructueuse pour remonter jusqu'aux auteurs, selon Samuel Thomas. C'est le président de l'association La Maison des Potes.
En France, il n'y a pas beaucoup d'affaires qui aboutissent si elles ne sont pas prises en main par les associations antiracistes. Et les forces antiracistes n'ont pas les moyens de mobiliser leurs services juridiques pour tous les signalements qui mériteraient une poursuite. Donc ça veut dire que là, on s'en remet à la police, au commissariat, au procureur de la République. Et là, la police, le commissariat, etc., considèrent que si l'auteur n'est pas désigné avec sa vraie identité par le plaignant, on va pas aller faire des investigations pour aller l'identifier et le retrouver. Donc, quand il faut faire des investigations pour chercher quelqu'un qui se cache derrière un pseudonyme, les plaintes, le plus souvent, n'aboutissent pas. Et donc, c'est uniquement sous la pression médiatique que ces plaintes-là peuvent aboutir, parce que le parquet, à ce moment-là, va se sentir obligé de considérer qu'il y a un trouble manifeste à l'ordre public et il va mobiliser des effectifs pour aller chercher l'identité des personnes derrière leur pseudo.
Samuel Thomas. Et puis, 6 mois après les Jeux Olympiques de Paris, c'était l'événement basket le plus attendu des fans français. Le deuxième match des NBA Paris Games se déroulait ce soir entre les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama et les Indiana Pacers. Les Spurs qui avaient remporté la première des deux rencontres parisiennes, c'était jeudi. Wemby, comme il est surnommé, avait fait le choix en inscrivant 30 points. Victor Missistrano, vous avez assisté à ces deux rencontres pour RFI. Vous revenez d'ailleurs tout juste de la Accord Arena de Bercy. Cette fois, ça ne s'est pas exactement passé comme le joueur de 21 ans l'espérait. Sa franchise s'est lourdement inclinée.
Oui, le score est sévère. Paul, 136 à 98, avec une ambiance assez terne, vous vous en doutez, en fin de match devant un public complètement acquis à la cause des Spurs. Tout le contraire de jeudi, quand Wemby avait illuminé la soirée. Il a cette fois été muselé par les Pacers du Cameroun et Pascal Siakam. Indiana s'en est aussi remis à son champion olympique, le meneur américain Tyrese Haliburton. Il était tout simplement sur une autre planète ce soir et a inscrit de nombreux tirs à 3 points. On a vu beaucoup de déceptions chez Victor Wembanyama, qui s'est présenté en conférence de presse après avoir passé un petit moment avec toute sa famille au centre du terrain. Et le Français a d'abord exprimé son bonheur d'avoir passé cette semaine à Paris, une délocalisation qui a fait avancer encore un peu plus le basket dans le pays. Un gros coup marketing aussi de la NBA. De nombreux médias internationaux présents, tout comme des fans venus de 53 pays. C'était la première fois que deux matchs consécutifs de saison régulière avaient lieu en France. Wembanyama espère revenir tous les ans avec son équipe, alors ce n'est pas encore gagné. Et pour l'heure, il repart dès ce soir pour les États-Unis avec 39 matchs de saison régulière à disputer et une phase finale des playoffs donc à aller chercher.
Merci Victor Missistrano. Et puis un mot de football en Ligue 1, des débuts contrastés pour Gvisha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain. La pépite géorgienne débarquée au mercato hivernal du Napoli était titularisée pour la première fois ce soir contre Reims pour le compte de la 19e journée. Les hommes de Luis Enrique n'ont pas fait mieux qu'un match nul, un but partout. C'est la fin de cette édition de 24 heures en France. Merci à vous de l'avoir suivi. 23h10 à Paris, 22h10 temps universel.